L'objectif de la rencontre, c'est principalement de faire rencontrer différents ouvrages de différents auteurs et avec un thème très général qui les regroupe et qui me semble représenter une question qui se pose aujourd'hui avec une certaine acuité. Donc le thème général, c'est le capitalisme est-il l'horizon indépassable de notre temps? C'est une façon de prendre à bras le corps un sentiment d'impuissance qui règne dans notre époque. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont conscients qu'on vit une époque qui est menacée d'une immense catastrophe écologique, à plus ou moins brève échéance, et d'autre part, on voit bien le cours catastrophique du monde sur le plan politique aussi, avec la déferlante de régimes autoritaires, nationalistes sur la planète, en France et ailleurs. Une espèce d'ultra-libéralisme qui a des aspects extrêmement autoritaires, extrêmement violents aussi. C'est-à-dire que derrière le sourire macronien, il y a la matraque de Benalla. Donc face à ça, beaucoup de gens sont conscients que l'organisation sociale dominante est extrêmement néfaste, produit énormément de souffrances et beaucoup d'horreurs. Mais face à ça, on peut se poser la question, est-ce qu'il est encore possible d'envisager la sortie de ce système social? L'idée, c'était de prendre comme point de départ plusieurs bouquins. Donc le premier soir, jeudi soir, c'est le livre de Charles Rive, qui est un vieux camarade, un vieux compagnon de route, des routes que j'ai suivies et que nous sommes quelques-uns à avoir suivies. Et donc lui, il a écrit un livre qui s'appelle « Le socialisme sauvage » et qui part de la Révolution française jusqu'à nos jours, jusqu'aux Nuits debout et au mouvement des places. C'est une somme qui est pour moi vraiment intéressante comme somme, surtout pour ceux qui ont besoin. Bon, on est un certain nombre à connaître quand même pas mal toutes ces histoires, mais beaucoup de gens, des jeunes en particulier, apprendront énormément à la lecture. Et puis ça parle de la Révolution espagnole aussi, etc., de mai 68. Bon, des grands moments d'espoir, d'émancipation. Deuxième bouquin, c'est le bouquin de Jacques qui va vous en parler, beaucoup mieux que moi. Jacques est l'animateur d'une revue qui s'appelle, un des deux animateurs d'une revue qui s'appelle Temps Critique, et qui est une revue de critique du capitalisme aujourd'hui, pour aller vite. En 68, il faisait partie du mouvement du 22 mars lyonnais. Donc, qui est un mouvement très qu'on connaît, moins connu que celui de Nanterre, mais qui a eu un rôle important dans le mai 68 lyonnais, et qui avait peut-être une unification théorique plus grande que le mouvement du 22 mars parisien, j'ai l'impression.
Oui. et bon, ça aussi on en parlera au moment du débat. Il s'agit de deux bouquins. Alors, le premier qui est je dirais pas le plus actuel, mais celui qui était de l'extraction plus récente, c'est celui sur mai 68 à Lyon. Mais il est lié à l'autre livre qui est sur mai 68 en général et ce qui s'est passé en Italie à la même époque et dans les années qui ont suivi. Et donc c'était un projet que j'ai mené en 2008. Et en 2008, en regardant ce qui s'était passé en France, j'avais fait une petite partie sur Lyon. Et puis après, progressivement, dans les 10 années qui ont suivi, avec d'autres copains, j'ai germé l'idée qu'il pouvait y avoir quand même suffisamment d'éléments originaux pour faire un livre proprement dit sur Lyon. Mais ce qui m'a retenu dans le... c'est pas le fait d'être moi-même lyonnais, qu'il fallait donner une allure régionaliste, mais c'est vrai que... il s'est passé quand même des choses dans les villes de province qui peuvent être intéressantes à décrire, qui permettent de réfléchir aussi au mai d'ensemble plus général. Mais c'est aussi parce que finalement, je pense que objectivement, il était important de parler de Lyon parce qu'il y a eu un certain nombre d'originalités. D'abord parce que le mai lyonnais n'a pas été d'inspiration uniquement étudiante, puisque en fait, comme à Nantes-Saint-Nazaire et dans quelques rares régions, le mouvement de 68 lui-même a été précédé par des luttes de 67. En milieu ouvrier et à Lyon particulièrement à la Rodia et un peu à Berlier-Vénissieux, et c'est au cours de l'année 67 que nous avons commencé à tisser aussi des liens avec les ouvriers de la Rodia par rapport à cette lutte de 67. Donc il y a eu quand même un certain nombre de prémices à Lyon qui ont fait que les choses ont pu avancer assez rapidement dès le mois de mai, surtout qu'à la Rodia par exemple une nouvelle grève avait eu lieu peu de temps avant. Donc il y a déjà cette spécificité un petit peu.
La jonction s'est faite plus vite entre étudiants et ouvriers.
Et puis surtout la jonction s'est faite par exemple à Lyon, on peut dire que la liaison s'est faite d'une certaine façon, à la base. Bon. Et avec une spécificité aussi, c'était une liaison, je dirais pas massive, mais qui n'était pas d'individu à individu. C'est-à-dire que, pour des raisons spécifiques à la Rodia, l'importance d'une section CFDT aussi, qui était relativement favorable à ce qu'on pourrait appeler le gauchisme, etc., on a eu moins d'obstacles que dans certaines grosses usines, que à Berlier par exemple, ou que dans la région parisienne. Donc on a pu établir des liens, mais qui n'étaient pas des liens de révolutionnaire à révolutionnaire. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'allait pas voir un ouvrier trotskiste qui existait effectivement, par exemple, à la Rodia. C'était plus des contacts au niveau du quartier, parce que le quartier était extrêmement ouvrier, mais des étudiants y habitaient aussi. Donc voilà, donc ça c'était un élément un peu spécifique. Et puis, un autre élément important qui a fait beaucoup de bruit et qui nécessitait des éclaircissements, c'était la question de ce qu'on a appelé les trimards. Donc les trimards, en fait, c'était... Bon, ils étaient déjà variés, mais les premiers qu'on a rencontrés et avec qui on a pris contact, c'était des jeunes, disons, entre 15 et 25 ans, qui souvent se réunissaient sous les ponts, certains y dormaient, mais se réunissaient sous les ponts pour boire des coups, discuter, etc. Certains, les plus jeunes, donc, pouvaient être des jeunes en fugue, sortant de foyer,
C'était une jonction avec la frange la plus marginalisée de la
voilà,
jeunesse.
Voilà, et puis aussi certains jeunes ouvriers, mais marginalisés, tout en étant ouvriers, assez individualisés, et cherchant une socialisation différente, justement une socialisation dans les marges. Et donc on a eu des contacts avec eux assez tôt, et ils se sont intégrés en quelque sorte à notre mouvement de révolte, dans la mesure où c'était de leur part aussi une révolte. On nous a souvent reproché de les avoir utilisés pour défendre les choses, etc. Bien sûr qu'il y a eu ce rôle-là. Personnellement, par exemple, j'en avais avec moi parce que j'étais en fac de droit et de sciences éco et qu'on a occupé la fac, etc. et que les fascistes étaient importants et que donc j'allais avec des trimards aussi pour me protéger, etc. Mais c'était un... pas ça qui était l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'ils étaient quand même très mêlés et ils n'ont jamais formé, par exemple, un service d'ordre. Et le mouvement était d'ailleurs plus informel qu'à Paris, où, après avoir quitté Nanterre, le mouvement du 22 mars, avec d'autres arrivants, y compris d'autres milieux politiques comme de la JCR ou autre, s'est durci dans ces structures et s'est mis véritablement à organiser presque militairement certains aspects du fonctionnement de la fac. Nous, pas du tout, c'est resté justement, comme vous dites, plus informel.
Et après, le samedi, il y a Michel Rio-Sarcé qui avait écrit un livre qui s'appelait « Procès de la liberté ». C'est une historienne qui a fait un gros travail donc, sur les révolutions du XIXe siècle, sur les partisans sur le discours des partisans de la Révolution, y compris surtout des gens qui étaient des ouvriers, enfin des artisans du XIXe siècle, parce que c'est une époque qui est de grande floraison, de réflexion, d'écrit, de pensée, qui est vraiment importante et intéressante à reprendre. Et donc samedi, elle fera une conférence sur le thème qu'elle appelle les chemins de l'émancipation. Et puis, pour finir, je parlerai de mon bouquin qui s'appelle « Le monde des grands projets et ses ennemis », où je parle des luttes de territoire, de la ZAD, des notaves, et de toutes ces batailles, de quoi elles peuvent être porteurs à notre époque et en quoi les grands travaux sont représentatifs du mode de domination capitaliste aujourd'hui. Voilà.
Ce moment que vous organisez, donc un moment de réflexion, de partage, si on veut se placer donc dans une dynamique révolutionnaire, dans le sens produire des effets pour effectivement changer ce monde. Ces moments-là de réflexion, de partage d'ouvrages, quelle place ils prennent dans cette dynamique plus large ?
Ils veulent en faire partie de cette dynamique d'une manière ou d'une autre, extrêmement modeste évidemment, mais ils veulent en faire partie évidemment. Il s'agit de contribuer au maintien d'une forme de réflexion et de rencontre. Et en plus, même la forme que prend cette réflexion, le fait que comment ça se passe, où ça se passe, ça a aussi une importance. On est accueilli à la mairie, mais on n'est pas institutionnel. On recherche un certain type de rapport entre les gens. Bon, les auteurs sont venus à leurs frais, on essaiera de les rembourser s'il y a suffisamment de monde qui vient pour participer au débat, mais disons que les logiques purement commerciales ou purement politiciennes n'interviennent pas dans notre démarche.
Oui, donc on vient pas en tant que conférencier comme si on avait une commande. Je pense que ça fait partie du minimum qui peut être fait et aussi parce que la critique, et même si elle semble parfois être un peu autonome par rapport aux luttes elles-mêmes, etc., la critique fait partie des activités d'un mouvement en quelque sorte, parce que elle exprime aussi une situation. Soit elle revient sur des moments historiques dont la compréhension peut avoir une portée pour des personnes nouvelles, pour de nouvelles générations, etc. Et puis aussi parce que cette critique, elle est aussi, elle rend compte aussi de la situation du moment, c'est-à-dire que on réinterprète toujours, c'est-à-dire on revient sur des choses, il y a des visions un peu différentes, on revoit les événements ou l'événement peut-être avec des yeux un peu nouveaux, etc. Enfin, on essaye de faire le pont entre cette réflexion qui souvent touche des choses anciennes, historique, et puis le fait de voir le lien ou la difficulté de lier ça avec une perspective actuelle.
Je voudrais, sans la nommer, vous parler d'elle comme d'une bien-aimée, d'une infidèle, une fille bien vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffrait, se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais, sans la nommer, lui rendre hommage. Jolie fleur du mois de mai ou fruit sauvage, une plante bien plantée sur ses deux jambes et qui traîne en liberté où bon lui semble. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffrait, se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais, sans la nommer, vous parler d'elle. Bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle Révolution Permanente. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffrait, se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'est elle que l'on qui donne envie de vivre, qui donne envie de suivre.